tout le monde est là. On attend encore 2 minutes. Il y a des personnes dehors ou... Je vous propose de commencer et je vais donner la parole à Michel Menu qui dirige le Centre de recherche et de restauration des musées de France depuis déjà un certain temps et qui est un laboratoire qui fait des choses merveilleuses avec lequel j'ai collaboré autrefois. Et il va nous présenter une communication intitulée « L'art et la couleur ». Ça reste large, mais il va préciser ce dont il va parler dans un instant. Je vous donne la parole bien volontiers.
En précisant, je ne dirige pas le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Je dirige le laboratoire du C2RMF, du Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui regroupe le département recherche, qui assure les examens et les analyses sur les œuvres d'art, et puis les services de restauration. Donc il y a un autre département qui gère plutôt les restaurations de l'ensemble des œuvres qui sont conservées dans les musées de France. Donc dans cette affaire qui est nettement pluridisciplinaire, qui est, et dont le titre générique de mon intervention, art et couleur, je vais l'aborder à partir d'un seul exemple, qui est le retable d'Isenheim, qui est un tableau qui se trouve, un retable sur un panneau de tilleul qui se trouve à Colmar, au musée Unterlinden, qui est un monument, puisqu'il fait plus de 3 mètres de large et plus de 2 mètres de hauteur, et dont la partie qui est en trois tableaux, en trois ouvertures, et dont la partie la plus atroce, peut-être, pour reprendre la terminologie de ce matin, correspond à cette représentation du Christ crucifié, qui est tout à fait épouvantable, en fait, parce qu'en fait, c'était un retable qui était utilisé pour... dans un centre qui guérissait les maladies de peau, la maladie de l'ergot du seigle. Et donc, ce tableau devait être, d'une certaine façon, ce retable devait être utilisé pour aider le patient, le malade, à recouvrer la santé. Donc, cette première ouverture, le Christ... avec en fait qui est autour des deux saints, donc le Saint Sébastien à droite, à gauche, pardon, et puis le Saint Antoine à gauche, et puis la mise au tombeau, près d'elle. Donc une première ouverture qui correspond à deux panneaux. Donc c'est le concert des anges à gauche et puis la nativité à droite, donc qui est tout à fait intéressante, aussi bien d'un point de vue symbolique. Et là, bon, je laisserai les historiens d'art gloser sur cette partie-là. Et la troisième ouverture, donc, qui correspond à la résurrection à gauche et puis à l'annonciation à droite. Donc, si j'ai pris cet exemple, c'est aussi parce qu'on a contribué à un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Hazan avec un historien d'art qui est François-René Martin, qui explique toute l'histoire. l'histoire et puis l'intérêt pour l'histoire de l'art et l'esthétisme de l'œuvre de Grunewald en son entier. Et puis il y a aussi une deuxième partie qui est tout à fait intéressante, qui est rédigée par Sylvie Ramon, et qui donc Sylvie Ramon est conservateur au musée de Lyon. Et elle a été très longtemps conservateur du musée Unterlinden à Colmar. Et dans cette partie, elle s'intéresse à la réception par les artistes de ce grand tableau de la Renaissance allemande, hein, qui est vraiment le tableau d'importance, de grande importance, hein, pour, au début du XVIe siècle. Donc pour et puis la dernière ouverture, voilà, qui correspond donc à l'agression de Saint Antoine gauche, et puis l'entrevue de Saint Antoine et de Saint Paul l'ermite. Et donc il y a des choses tout à fait intéressantes et pertinentes, par exemple la symbolique du corbeau qui amène le pain coupé en deux, puisqu'il y a deux convives, etc. Et puis, ce qui est aussi quelque chose que je n'évoquerai pas là maintenant, sauf si vous avez des questions, c'est correspondant à la restauration de cette œuvre. Hein, il y a eu quelques polémiques autour de la restauration de cette œuvre qui a été entreprise en début d'année 2012. Mais je vais, moi, m'intéresser essentiellement à la compréhension matérielle de la palette de Grunewald et comment il a choisi et intentionnellement sa couleur. Donc, pour étudier cette boîte de couleurs de Grunewald, on s'est appuyé sur, d'une part, une recherche documentaire révélée notamment par l'inventaire après décès de Matthias Gotthard Nitthardt. Inventaire après décès qui se retrouve dans les archives de Francfort, hein, donc qui ont été étudiés par des documentalistes et ensuite publiés. Ensuite, des analyses directes sur l'œuvre elle-même, c'est-à-dire qu'on a déplacé le laboratoire à Colmar en emmenant un certain nombre de méthodes d'examen et d'analyse. Et puis, on a été aussi habilité, du moins autorisé, à effectuer des micro-prélèvements de peinture. Et vous verrez en quoi c'est totalement nécessaire parfois pour comprendre la complexité de la matière picturale. Et donc, c'est, on a aussi, dans le dernier point, ici, qui est mentionné par une autre forme de réception de l'œuvre de Grunewald par des artistes contemporains, c'est-à-dire que c'est une recherche qui a été faite par deux artistes contemporains, Claudier et Francis Hunsinger, qui sont des artistes colmariens, et qui ont travaillé et recherché les pigments à partir des résultats que nous avons réalisés. Et donc, ils ont fait des expérimentations, hein, qui sont tout à fait intéressantes et qui permettent aussi également de retrouver quelle pouvait être la couleur du retable dessiné. Donc là, c'est l'inventaire après décès. Donc là, il y a une traduction, hein, donc d'un certain nombre d'items qui ont été retrouvés. Hein, donc, il y avait deux personnes qui ont été chargées de faire l'inventaire après décès de Grunewald en 1528. Et qui ont, pour l'essentiel, consigné, hein, et décrit des boîtes dans lesquelles il y avait des peintures. Et donc, ils ont également donné des mentions de poids et de coût, hein, ce qui sont parfois des informations précieuses pour comprendre les choses. Donc là, pour le vert, hein, et pour le rouge, hein, donc on voit qu'il y a du rouge de Paris ou qui est une sorte de qui est une laque, hein, et ensuite mais j'y reviendrai pour le vert, hein, il y a plusieurs pigments qui sont à base de cuivre, et là on va les retrouver dans la stratigraphie ou dans l'analyse du retable d'Issanay. Et puis là aussi le blanc de plomb, et ça c'est le blanc de plomb, c'est une vaste affaire, puisque le blanc de plomb c'est le pigment de base à partir de l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on s'est aperçu de la toxicité de ce matériau. Hein, mais c'est le pigment de base qui a été utilisé par les artistes, et qu'on retrouve dans la peinture égyptienne, la peinture romaine, et puis dans toute la peinture de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Donc les analyses et les examens qui ont été effectués sont listés sur cette diapositive. Donc on a fait un dossier photographique où on observe les œuvres avec différentes radiations, donc en lumière directe, hein, les lumières colorées, qui restitue la couleur des œuvres. Et donc là, on a des possibilités aujourd'hui d'avoir des clichés de bonne qualité qui ont des couleurs calibrées. Mais bon, on a cette difficulté de ne pas avoir une autre dimension de l'apparence, qui est celle qui a été évoquée par Michel Pastoureau, qui est la transparence ou la brillance notamment. Et donc, pour cela, qui est lié souvent à des questions de rugosité ou, disons, d'aspect de surface à différentes échelles. Et on utilise une technique pour essayer de rendre compte un peu de cela, qui est la lumière rasante. Et donc, on a, comme lorsqu'on observe un paysage avec un ciel couchant, eh bien, les reliefs vont être accentués par les ombres. Et donc, cette lumière rasante donne des informations, ou du moins consigne, enregistre des informations tout à fait importantes, hein, de la surface des œuvres. Donc, ensuite, on a la fluorescence sous UV. Donc ici, la fluorescence sous UV donne une information sur l'extrême surface de l'œuvre. En fait, c'est généralement les vernis qui sont déposés sur les peintures pour les protéger, hein, qui, en vieillissant, jaunissent et vont commencer à fluorescer, et donc vont fournir des examens essentiel pour la conservation et la restauration des œuvres. Ensuite, un autre type d'examen, c'est les examens dans l'infrarouge, à différentes parties du spectre infrarouge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en général, un certain nombre de pigments sont transparents dans l'infrarouge, à l'exception du cuivre et des matériaux carbonés. Et c'est un examen qui est extrêmement important pour retrouver le dessin sous-jacent qui se trouve sous les couches de peinture, qui a été déposé par le peintre ou ses assistants, hein, donc sur les couches de préparation, et donc qui vont donner une information extrêmement importante sur les techniques de réalisation de l'œuvre. Donc ensuite, il y a les radiographies des rayons X. Et donc, donc là, qui est une méthode, je dirais, classique et qui a été vraiment à l'origine du développement des laboratoires dans les musées. Hein, donc que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en France, l'invention de la radiographie, des rayons X par Röntgen à la fin du 19e siècle a provoqué très vite, hein, donc au tout début du 20e siècle, la création de petites unités, de petits laboratoires au sein des musées pour essayer de déceler les différentes strates de réalisation des tableaux, de voir si un tableau pouvait en cacher un autre. Et cette propriété de radiographie a pu être aussi trouver son essor, justement parce que le pigment de base de la matière picturale était le blanc de plomb. Donc, c'est-à-dire des modifications très minimes d'épaisseur de blanc de plomb vont pouvoir être enregistrées parce que le blanc de plomb est quelque chose de très... Le plomb est un matériau très opaque aux rayons X. En fond de cette diapositive, eh bien, il y a une découpe stratigraphique, un micro-prélèvement qui a été réalisé sur le retable d'Isenheim, et ça, je vais y revenir. Mais ce prélèvement est inséré dans une résine, puis poli, et ensuite observé au microscope optique ici. On va donc avoir une information sur les couleurs, mais aussi sur la superposition des différentes couches. Et donc, pour vous donner une échelle de grandeur, on a ici environ 50 micromètres, disons un vingtième de millimètre. Et donc, la taille maximum de ce micro-prélèvement est un demi-millimètre. Donc, c'est quelque chose qui est pratiquement invisible à l'œil nu. L'œil hémétrope, hein, c'est-à-dire sans défaut de vision, est donc sensible sauf si on l'appareil avec des loupes, des microscopes, mais disons si on regarde à l'œil nu, l'œil ne peut voir des détails de l'ordre du dixième de millimètre. Donc, ce prélèvement est pratiquement invisible, et donc c'est pour ça que sur un tableau, sur une œuvre aussi grande que celle de Grunewald, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ensuite, on a fait aussi des examens de surface par fluorescence X. Cette fois-ci, on utilise les rayons X pour exciter les différents atomes de la matière. Et donc, ces atomes excités retournent à l'état fondamental en émettant un rayonnement de fluorescence X caractéristique de cet atome, c'est-à-dire dont l'énergie, la longueur d'onde va être caractéristique du cuivre, du calcium, du plomb. Et donc, on va pouvoir faire une analyse directe, et on a transporté donc ce système d'analyse ici, devant le retable. Et donc là, une autre image, donc avec un collègue, on était en train d'analyser plusieurs points. Donc on a fait plus de 150 points pointés sur le retable lui-même. Et on a ici donc une liste donc de tout ce qui a été fait sur chacun des panneaux et les différentes couleurs qui ont été donc référencées et étudiées, qui sont mises ici dans un ordre alphabétique. Et donc les résultats, après, nécessitent la fluorescence X, c'est une technique d'analyse élémentaire. Donc on va donner la présence des différents éléments chimiques, du cuivre, du calcium, du plomb, etc. Et après, pour interpréter ces résultats, il faut une connaissance préalable des pigments, faire des analyses éventuellement complémentaires, et aussi de valider ces résultats avec des analyses sur les prélèvements, comme sur celui-là. Hein, et donc, on a ici la possibilité de faire des analyses non seulement au microscope optique, comme ici, donc de voir les couleurs et de voir la stratification des différentes couches, hein, c'est-à-dire les différentes étapes de réalisation de l'œuvre. Mais en même temps, on peut utiliser ce prélèvement, lui mettre devant un microscope électronique à balayage, couplé lui aussi avec des systèmes d'analyse, et donc étudier grain de pigment par grain de pigment et en découvrir la nature. Donc ici, on a effectivement les différents résultats qui ont été trouvés. Hein, donc pour le bleu, on a l'azurite. L'azurite qui est le pigment utilisé par les écoles du Nord. Hein, donc c'est aussi le bleu d'Allemagne. Et il y a différents types de vraisemblablement d'azurite hein, qui ont été utilisés. Donc de l'azurite minérale découverte dans des mines de cuivre, et puis peut-être également de l'azurite artificielle, hein, donc qui devait être moins coûteuse. Donc dans le jaune on a un pigment qui est classique, hein, qui est le jaune de plomb et d'étain, qui est le pigment utilisé à l'époque de la Renaissance, et on retrouve toujours ce même jaune. Le rose, on a un mélange de vermillon et de blanc de plomb, vraisemblablement avec potentiellement la possibilité d'avoir de la laque. Une laque, je vais y revenir tout de suite. Le rouge, on a différents types de rouges qui ont été utilisés. Donc un pigment à base de fer qui est l'ocre, l'hématite, hein, donc ça c'est un pigment classique. Le vermillon qui est le pigment le plus qui a été évoqué par Michel Passoureau tout à l'heure. Et puis la laque hein, qu'on a vu dans l'inventaire après décès comme le rouge de Paris ou le bois de Brésil. Et le vert est un verre au cuivre, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce qu'il y a différents types de verres au cuivre qui ont été utilisés lors de la réalisation du retable d'Issenheim. Donc, mais pour commencer, le panneau de tilleul qui est utilisé par Grunewald est recouvert par une colle. Puis ensuite, il y a une couche de préparation qui est déposée. Une couche de préparation dans les écoles du Nord sont essentiellement constituées de carbonate de calcium, de chaux. Hein, donc, au contraire des écoles italiennes hein, où on a du gypse, hein, du sulfate de calcium. Donc, et parfois avec des granulométries différentes. Et pour obtenir une surface très lisse qui est parfois surmontée d'une couche d'impression qu'on décerne ici, qui est réalisée par un mélange de blanc de plomb avec la couche de blanc de plomb, c'est un carbonate de plomb avec de l'huile, hein, dans de l'huile, vraisemblablement de l'huile de lin. Et qui est donc qui est présente sur la majorité des couleurs sur le retable d'Issenheim, et c'était une découverte assez intéressante. Et puis ensuite, il y a les différentes couches de peinture. Si on trouve un dessin sous-jacent, un dessin il va se retrouver dans cette région-là, hein, donc soit sur la couche d'impression, soit sous la couche d'impression, c'est selon. Au moment où l'artiste a décidé de mettre en place, disons, ces grandes plages de couleurs. Pardon. Donc, le blanc de plomb, je ne sais plus où je suis. Donc le blanc de plomb est constitué essentiellement par un carbonate de plomb. Et donc il y a en fait deux carbonates de plomb, hein, qui est la cérusite. Et il peut y avoir un carbonate hydraté qui est l'hydrocérusite, qui sont deux phases minérales dont les proportions peuvent, dans certains cas, tracer les méthodes d'élaboration du pigment ou sa provenance. Et donc, pour cela, hein, donc il faut aller au-delà de l'analyse élémentaire. Et pour cela, on utilise des techniques de diffraction X. Hein, donc, ces techniques permettent de voir comment les atomes sont agencés dans les minéraux, hein, donc d'avoir une analyse structurale. Et on peut, à partir des micro-prélèvements que je vous ai présentés tout à l'heure, faire une analyse une micro-analyse, et ceci, pour cela, nécessite qu'on utilise les appareils, les grands instruments comme les synchrotrons qui se trouvent à Grenoble ou en banlieue parisienne, hein, donc le synchrotron Soleil qui se trouve pas loin d'Orsay. Et donc cette quantification est devenue quelque chose de très important, et en fait peuvent également être intéressantes et reliées à des connaissances documentaires, hein, qui c'est une recherche en cours, et ça c'est en fait c'est quelque chose que je vais suivre en donnant ce sujet pour une thèse de chimie. Donc, parce que en fait, il y a trois types de pigments de blanc de plomb qui étaient mis à la disposition des artistes à l'époque de la Renaissance. Donc, il y a ces trois blancs de plomb, le blanc ordinaire, le blanc de plomb de Venise et la cérute anversoise. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on voit, on décèle, on fait, disons, des sciences naturelles sur les tableaux. On voit qu'il y a différents types de blancs de plomb avec des rapports cérusite-hydrocérusite différents, mais on n'arrive pas à les relier à ces trois types de blancs de plomb. Peut-être en existait d'autres, et certainement il en existe d'autres. Et donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est ensuite de relier ces différents pigments en connaissant leurs propriétés physiques pour voir quels sont les modes de préparation, ou du moins l'intention des différents de l'artiste, les modes d'utilisation de ces différents blancs de plomb en fonction de la couche de préparation, un mélange avec les couleurs ou d'autres raisons encore, hein, parce que bon, peut-être tout ça c'est aussi lié à des questions de coût. Et donc, il peut y avoir des informations tout à fait intéressantes. Alors, ça, je vais présenter des planches que vous connaissez sans doute.
Oui.
Et donc avec des représentations de la céruse ici, hein, donc sur. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, les différents pigments qui ont été obtenus, le jaune de plomb et d'étain, qu'on retrouve sur l'auréole du Christ ressuscité, le vert au cuivre en fond, le bleu azurite, hein, donc le rouge qui est une laque, je vais y revenir. Donc le bleu azurite sur un prélèvement ici, hein, donc on voit bien là aussi les différentes tailles de grains, hein, donc les grains ici beaucoup plus importants que sur cette couche qui se trouve juste sur la couche de préparation. Donc l'azurite se présente comme ça sous forme de minéraux. Mais je vais interpréter ça tout à l'heure. L'or qui est très très peu présente en fait dans l'œuvre de Grunewald. dans l'œuvre du retable d'Isenheim. Donc il y a quelques représentations de bijoux et puis des ceintures des saints dans le concert des anges et puis aussi les archets des musiciens. Et donc on a différents types d'or qui ont été observés, un or à la feuille et puis un or qui est mélangé avec du cuivre. Et puis un peu de plomb, hein, donc qui est un autre type de préparation. Ensuite, un pigment tout à fait intéressant qui a été découvert de façon fortuite, d'abord par l'analyse directe en fluorescence X, puis à partir de prélèvements, hein, qui est un pigment à base d'antimoine, et qui se retrouve sur la côte de maille de ce garde endormi de la résurrection, et puis les plumes de l'oiseau de l'agression de Saint-Antoine. Et donc, pour caractériser ce pigment à base d'antimoine, eh bien, on a été obligé, là aussi, de faire des analyses au synchrotron à Grenoble, hein, pour retrouver sur... sur cette couche ici, hein, donc un pigment qui est la stibine, qui est un sulfure d'antimoine, dont vous avez une représentation ici à l'état naturel, qui broyé est un pigment très foncé et qui a des reflets métalliques, et donc mélangé avec du blanc de plomb va donner cet aspect métallique qui était recherché pour donc la côte de maille du garde endormi ou les plumes de l'oiseau, hein, donner cet aspect chatoyant des plumes de l'oiseau. Et l'exemple que j'ai pris là, c'était un prélèvement qu'on avait réalisé sur un autre tableau de Grunewald qui se trouve conservé à Bâle, pas très loin, hein, donc de Colmar. Et donc, on a, donc ça c'est les résultats de l'analyse, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc c'est des analyses, hein, donc, en spectrométrie d'absorption des rayons X. Et donc, on a la possibilité, dans ce cas-là, de voir l'environnement de l'antimoine, c'est ça qui nous intéressait. Donc, on a pu identifier ce sulfure, la stibine, et donc ce pigment. Donc ça, la représentation de la petite crucifixion qui se trouve à Bâle, avec donc le personnage en armure, un longin qui donc se trouve donc qui a été utilisé la stibine, le sulfure d'antimoine. Donc la stibine, la voilà, et donc en prenant des images de manuscrits médiévaux. Donc on a des représentations d'extraction d'antimoine. Hein, donc c'est pour aussi illustrer cela et en pensant à Michel Pastoureau que j'ai pris ces exemples. Donc pour les verres, tous les verres sont à base de cuivre. Hein, essentiellement, on a très peu trouvé de malachite, qui est le pigment naturel qu'on retrouve dans les mines. Mais c'est plutôt des pigments qui sont des pigments réalisés par les ateliers des artistes, hein, qui sont des verres de gris, des acétates, des résinates de cuivre, avec différentes recettes de fabrication. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce que si on fait une analyse élémentaire, on va trouver la présence de cuivre, et on va avoir, par contre, pour comprendre et retrouver toutes les techniques de réalisation, de préparation de ces pigments, c'est une histoire un peu plus délicate. Et En ce moment, il y a de nouveau une thèse qui se consacre à la réalisation, à la compréhension des techniques de préparation des résinates de cuivre, avec aussi une dimension qui est importante pour un laboratoire comme le mien, qui est liée à la conservation et à la restauration des couches vertes, hein, parce qu'en fait, le pigment vert réagit, vert de cuivre, va réagir avec le liant des peintures et va brunir, s'altérer, diffuser dans la matière picturale et va brouiller, entre guillemets, l'image. Et donc, c'est quelque chose qui est parfois, difficile à restaurer. Donc on le retrouve notamment donc et pour beaucoup dans la représentation de ce monde végétal sur ce panneau, hein, donc la visite. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a trouvé aussi fortuitement un prélèvement. On a fait un prélèvement donc qui se trouve ici, hein, donc tout près d'ici, et on a trouvé que la couche de peinture a été réalisée directement sur la couche de préparation, sans couche d'impression au blanc de plomb, mais on a découvert un dessin sous-jacent qu'on perçoit un peu rougeâtre ici et qui est à base d'oxyde de fer. Et si j'insiste ici, c'est parce que l'oxyde de fer n'est pas décelable par la technique de réflectographie dans l'infrarouge. Et donc, on ne voit pas les dessins sous-jacents à base d'oxyde de fer. On ne voit que les dessins sous-jacents à base de carbone. Donc, donc, en fait, on voit que la moitié des dessins sous-jacents, parce que à cette époque, la moitié des dessins étaient faits avec des bâtons d'hématite, et ceux-là, ils restent encore invisibles. Donc, les lacs nécessitent des techniques chimiques un peu compliquées. Donc, à partir de prélèvements, on va pouvoir. Ce prélèvement sur la tunique de ce garde endormi. Hein, donc, on a des techniques de chromatographie en phase liquide, hein, qui ont permis de découvrir sur ce prélèvement la superposition de deux couches de peinture, hein, donc deux types de lacs. Un colorant à base de kermès. Hein, donc le kermès, c'est un colorant animal, hein, à base de petits insectes, et un colorant végétal à base de rubiacé, et c'est vraisemblablement la garance. Hein, garance qui est représentée là, c'est des racines de garance qui, broyées, donnent cette couleur qui est un peu plus rouge normalement. Et donc, pour terminer, voilà, avec une interaction avec les artistes colmariens, Claudie et Francis Hunsinger, ils ont réalisé cette palette de couleurs. Hein, donc, là, on a la stibine noire, un peu métallique, là, le jaune de plomb et d'étain, le rouge à base de vermillon, le rouge à base de garance, etc., le vert à base de cuivre, et qui donne une idée de ce que pouvaient être les couleurs originales. Bon, ça, c'est une vraie question. Est-ce que lié à la restauration, lié aussi au problème ou au questionnement épistémologique évoqué par Michel Pastoureau, qu'est-ce que ça veut dire les couleurs originales? Est-ce que Grunewald voyait les couleurs de la même façon que nous? Ça, c'est puisque la couleur a aussi une dimension culturelle, mémorielle, disons, liée au contexte sociologique. Et pour terminer, et c'est avec cela qu'on s'est intéressé avec les artistes, c'est que Grunewald, qui était en même temps, comme la plupart des grands artistes de la Renaissance, non seulement peintre, mais également ingénieur, Grunewald était ingénieur hydraulicien, et vraisemblablement aussi métallurgiste, il s'est intéressé à rechercher lui-même les minerais, et il avait dans l'environnement immédiat de Colmar, d'Isenheim, une source extrêmement importante de minerais, hein, donc les mines d'argent et de plomb de Sainte-Marie-aux-Mines, et qui, en abondance, donnait de l'azurite, de la malachite, de la stibine, donc tous ces minerais qu'on a retrouvés sur la bande. Je vais passer quelques diapositives pour terminer là-dessus. Donc ça, c'est le tableau de la résurrection du Christ qui, effectivement, nécessiterait aussi de lier ça avec toute une recherche symbolique, historique, hein, de savoir quelles sont les couleurs liées et aussi à toute la hiérarchie, entre Dieu, les anges, les humains et les animaux. Donc tout ça est lié. Donc le Christ se retrouve, lui, dans le soleil. Mais si on observe le soleil derrière quelque chose qui ressemble à une nuit noire avec différentes étoiles. Et en fait, un grand historien de l'art des couleurs qui est John Gage, hein, c'est ça. Je me souvenais plus, j'étais plus sûr de son prénom. Lui, il a associé cette image avec le travail du métallurgiste dans son atelier, et toutes ces étoiles, il le voyait comme des escarbilles qui se retrouvent lorsqu'on travaille le métal. Il se trouve que des collègues de mon laboratoire ont fait des expériences sur le cuivre. Et voilà cette image qu'ils ont obtenue, hein, qui est extrêmement troublante puisque, pour moi, puisqu'elle est vraiment à mettre en correspondance avec cette résurrection du Christ. Voilà. Je vous remercie beaucoup.
Merci d'avoir décortiqué chromatiquement et pigmentairement devant nous une œuvre très célèbre. Ça pose beaucoup de problèmes, mais ça ouvre aussi de très nombreuses pistes. Qui souhaite prendre la parole? À qui le micro? Pour des comparaisons, des compléments, des contestations? Anne.
En fait, je voulais juste savoir si vous aviez eu le temps de soumettre la photo des expériences sur le cuivre à John Gage avant qu'il décède. Non.
Qui souhaite intervenir? Quand pour Grunewald, ça n'est pas le cas, mais quelquefois, quand on lit les écrits ou la correspondance de certains grands peintres de la Renaissance italienne, par exemple, Titien ou Véronèse surtout, on a conscience que ces peintres savent que leurs pigments vont se transformer au fil du temps, vont évoluer, et ils travaillent en conséquence, et on a l'impression que l'état qu'ils veulent livrer à la postérité, c'est pas l'état premier du tableau, mais un état à venir. Et nous, quelquefois, quand nous restaurons et que nous cherchons à remettre dans l'état premier, nous allons peut-être à l'encontre de la volonté des artistes. Ça m'a frappé avec l'immense dossier de la restauration des voûtes de la chapelle Sixtine dans les années 80 du XXe siècle. C'est magnifique parce que ces chantiers laboratoires posent non seulement aux restaurateurs, aux laboratoires, aux hommes de science et de technique, mais aux historiens de l'art, aux historiens tout court, toutes sortes de problèmes dont certains sont complètement insolubles. Nous prenons conscience de nos limites et le dossier retable d'Isenheim, c'est un peu la même chose. Claude, vous voulez dire quelque chose ?
Merci d'être intervenu dans ce sens-là, parce qu'en fait, on a eu exactement ce genre de préoccupation lors de la restauration de la Sainte-Anne de Léonard de Vinci en début d'année, dont vous avez sans doute vu l'exposition. Et donc la Sainte-Anne a été... ça pose aussi des problèmes diplomatiques parce qu'il y a un certain nombre d'avis contradictoires autour de savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter pour restaurer une œuvre. Et donc, même si aujourd'hui on s'enorgueillit d'avoir restauré la Sainte-Anne, et on s'aperçoit que sa lisibilité est bien supérieure. Je pense à la robe de la Vierge bleue qui était complètement tachetée, mouchetée, et donc qui est aujourd'hui dans une apparence bien plus... je ne dis pas proche de celle de Léonard, mais beaucoup plus intéressante pour l'œil. Hein, mais ça pose effectivement des problèmes cruciaux de savoir où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant aussi, ça vous l'évoquiez dans votre intervention, Michel, c'est le fait que les gens observer les œuvres, non pas par l'œuvre elle-même, mais aussi par l'image qu'ils en avaient. Et l'image était souvent des photos en noir et blanc. Et même sur des œuvres aujourd'hui, la validation d'une restauration est faite aujourd'hui par l'œil humain. Donc c'est un œil humain qui va décider où est-ce qu'on va s'arrêter dans la restauration.
Monsieur Valeur.
Oui, tu n'as pas évoqué dans les méthodes d'analyse la spectroscopie micro-Raman. Est-ce que c'est une question d'opportunité ou est-ce que c'est parce que finalement elle n'apporte pas tellement plus que la micro-fluo-X ?
Pour deux raisons. D'abord parce que j'ai une collègue ici qui va me suivre et qui parlera sans doute un peu de micro-Raman, non ? Ah bon ? C'est une erreur. C'est une erreur. Une collègue est néanmoins amie qui est une spécialiste de microspectrométrie Raman, et donc j'imaginais qu'elle allait évoquer cette technique. Et la deuxième chose, on a fait quelques analyses, effectivement, en microspectrométrie Raman, mais qui ont confirmé ce qu'on a fait. On a développé aussi au laboratoire un diffractomètre portable, et donc on a une complémentarité des différentes techniques, mais je n'ai pas voulu rentrer dans le détail des différentes méthodes qu'on a utilisées. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une opération qui s'est déroulée dans le temps. Hein. Donc on a fait, il faut se déplacer. C'est des missions qui durent une semaine, 15 jours. Et donc on a, pour avoir une vue synthétique de toute cette palette de Grunewald, on a mis plus de 3 ans pour le faire. Hein, donc les missions récurrentes, disons 5-6 par an. Ensuite, la synthèse et la mise en commun des différents résultats. Ce qu'il faut aussi, et ça, je te remercie de l'avoir évoqué, c'est qu'il n'y a pas une seule technique qui va permettre de répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. Donc c'est un panel, une boîte à outils, hein, différentes méthodes d'analyse élémentaires, structurales, méthodes. On a aussi utilisé beaucoup la spectrométrie colorimétrie, hein, donc pour la mesure de couleurs. C'est vraiment la mise en commun de tous ces résultats qui permettent d'arriver à retrouver, à comprendre la palette de Grunewald.
Quelle est la référence de l'ouvrage chez Azan, monsieur Menu, je ne sais pas.
Grunewald,
d'accord. Voilà.
Qui est Grunewald, Azan, hein.
Toutes les bonnes librairies.
Je ne sais pas.
Pour Noël.
J'imagine.
J'espère bien.
Philippe, oui. Une dernière question.
Oui, monsieur.
Pardon. Vous avez évoqué les interrogations déontologiques des restaurateurs, savoir où s'arrêter, quelle est la position qu'on doit prendre par rapport à telle et telle restauration. Il y a un texte qui fait référence, c'est la charte de Venise de Cesare Brandi, qui date de 1964. Est-ce qu'elle, à votre point de vue, est-ce qu'elle mériterait d'être réactualisée, dans le sens où en 1964 il n'y avait pas tous les outils, toute la technologie qui était à la disposition des restaurateurs?
Je pense qu'elle doit être réactualisée, mais c'est mon point de vue personnel en tant que physico-chimiste. Alors bon, on est dans un terrain interdisciplinaire. Je ne parle pas pluridisciplinaire, interdisciplinaire, et c'est ce terrain-là est extrêmement délicat. La restauration aujourd'hui est opérée par des restaurateurs qui sont des privés, en France, je parle en France, donc des privés. La restauration est dirigée par des conservateurs, qui sont des historiens fonctionnaires, appointés par les musées. Et donc, aujourd'hui, les décisions de restauration, effectivement, suivent cette charte que vous évoquiez. En même temps, elle est interprétée de façon extrêmement souple. C'est selon, en fonction de l'œuvre et de la personne qui est responsable de la restauration. Il me semble qu'il y a plusieurs choses qui sont en train d'être, qui sont en gestation aujourd'hui. Hein, c'est d'une part le fait qu'on va sortir discipline artisanale qui est celle de la restauration avec une approche nettement plus scientifique. Et une approche scientifique, je ne veux pas dire uniquement l'utilisation des méthodes d'examen et d'analyse scientifique telles que je viens de vous les présenter, mais également leur formation à eux, un peu comme les médecins ont fait leur, leur mutation il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Donc il y aura une nécessité à adapter cette, cette charte dans les années à venir.
Merci beaucoup.
Je vous donne le micro.
Donc maintenant, la parole est à l'intervenant suivant, qui est Michel Duport.
Merci.
Où est-il ?
Il arrive.
Ah, le voilà. Qui, comme nous tous, les huit orateurs, a plusieurs casquettes. Il est à la fois artiste et enseignant. Enseignant dans différentes écoles de beaux-arts. Moi, je l'ai rencontré à l'école des beaux-arts de Valence, je crois, il y a déjà très longtemps. Et puis, artiste, d'une part, qui expose son travail, de l'autre, dont les œuvres sont présentes dans un assez grand nombre de musées. Il nous présente aujourd'hui une intervention dont le titre comporte un certain nombre de points d'interrogation. Éco, écologie, économie, un témoignage de peintre.
Merci. Attendez, je crois qu'il y en a un là.
D'abord, je branche.
Ça semble marcher. Ça va venir. Je suis un peu impressionné de... Pardon. De succéder aux intervenants précédents qui ont une densité assez étonnante. Et puis, moi, je suis un peu faible par rapport à tous ces savoirs et toutes ces analyses. Faible, évidemment, dans les méthodes. Faible parce que je vais parler du présent et peut-être moins du passé et de... que donc d'une culture pour moi en mouvement et non et pas forcément une culture qui est déjà stratifiée ou je n'irais pas le dire justement. Je me méfie. Alors n'ayant pas PowerPoint dans mes cordes, je vais passer des photos de manière assez naïve. Et je vais vous passer deux séries de photographies, de tableaux, et dans lesquels je ne veux pas faire de commentaires en particulier, mais qui constituent deux séries que je considère comme un peu contraires. Première série, elle commence ici. Là, je vais pas, attendez, on va peut-être faire un grand écran. Non, ça va venir. Les mystères. Tout le monde aura reconnu un tableau de Vuillard, peintre Naby, donc des années 1905 à peu près. Oui, oui, mais il a été Naby pendant peu de temps. Et le Naby ne faisant pas le moine... Voilà un autre compagnon de cette époque qui est Bonnard. Puis Georges Braque, ici. Vous regardez bien les images parce que ce n'est pas forcément les artistes qui sont intéressants, c'est comment est faite l'image, comment est faite l'image par rapport à la couleur. Matisse, fenêtre à Collioure. Encore Georges Braque. Alors là, on se trouve dans un moment qui me paraît être la véritable origine de la modernité. C'est le moment où les arbres qui sont verts sont peints en rouge. Au moment où, finalement, au lieu de suivre la nature et cette correspondance, l'artiste va décider des choses. S'il a envie de faire l'arbre rouge, eh bien, allons-y. Il n'y a pas une couleur locale, si vous voulez, qui voudrait décrire l'objet, mais il y a la couleur que choisit l'artiste comme il veut. Évidemment, il s'appelle fauve parce que, s'agissant de ces choix à colorer, ils ne font pas la petite cuillère, quoi. Et Matisse, plutôt Derain, ici, où il y a l'évocation d'une nouvelle Arcadie, un nouveau paradis, où il y a une liberté, à la fois une sensualité, une liberté, et l'audace du peintre, et aussi ce geste fondamental qui va inaugurer toute la peinture à partir de là, c'est la simplification et l'absence de travail. Moins il y en a, mieux c'est. Et cette liberté, cette, entre guillemets, décontraction, va absolument couper finalement le public avec la création artistique. Ne montrant pas de travail, elle évidemment ne montre pas de valeur, puisque la notion de valeur est en partie attachée à la question du travail. Vous n'achetez pas une voiture qui est à moitié faite, ou, etc. Vous achetez une voiture qui est bien faite. Donc l'ensemble des éléments se concourent à faire une voiture intéressante. Jacques Villon, Charles Lapicque, on entre là dans une école dite École de Paris qui va suivre cette espèce de voie française qui est de l'impressionnisme. Je vous donne tout de suite un mot, la division de la surface, soit par des touches, hein, évidemment, soit par des constructions de petites surfaces les unes à côté des autres. Dont un représentant ici qui est Bazaine, hein, qui sera un peintre extrêmement célèbre dans les années 60, peintre français, dont il fera une exposition au seul musée d'art moderne qui existait à cette époque, c'est l'époque de ma formation aussi, et on n'avait pas beaucoup d'informations. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, il fallait avoir un minimum de 60 ans pour pouvoir exposer. Donc les peintres modernes avaient déjà 60 ans. Ce qui n'est pas évidemment le cas maintenant, puisque un peintre ou un artiste, disons, est immédiatement utilisé au sortir de l'école des beaux-arts, même voire à l'intérieur de l'école. Il est déjà l'artiste qui va devenir le grand artiste. Donc il a de 60 ans, on passe à 19 ans ou 20 ans. Ici, une artiste anglaise qui s'appelle Fiona Ray. Une artiste extraordinaire qui, en 10 ans, fait toute l'histoire de la peinture. Elle sait tout faire. Là, un artiste allemand dont, d'un seul coup, j'ai oublié le nom. Là, tout le monde reconnaîtra Antheil, hein, qui ne peint plus avec des pinceaux, mais en pliant souvenir de sa mère qui était couturière. Et là, on renvoie à Vuillard, dont la rhapsodie, c'est-à-dire le remaillage, le rapport à la couture, sa mère était couturière aussi, une grande importance. Donc il plie, un peu comme le batik, il plie la toile, il la coud, et puis il la trempe dans la couleur, et puis il la déplie. Alors ce sont les plis qui font peinture. Alors je vais opposer cette série à celle-là, Malevitch, Mondrian, un autre artiste allemand dont ça me reviendra, Joseph Albers. Ici, Barnett Newman. Alors là, ça sera pour ma génération la cassure, si vous voulez. Nous avions été formés avec Bazaine, donc comme phare et comme modèle de la modernité. Cette suite infinie d'impressionnisme qui n'en finissait pas de mourir. Et puis d'un seul coup arrive à partir des États-Unis une toute autre dimension qui est celle de l'étendue. Et vous voyez les personnages qui donnent l'échelle, si vous voulez, du tableau, et qui, évidemment, surtout dans l'image en noir et blanc, où il y a deux personnages debout, montre que cette échelle est évidemment convoquée et le rapport au corps avec la dimension du tableau va d'un seul coup être très importante et renvoyer le tableau de chevalet à son sort de tableau de dessus de cheminée ou Là, il faut évidemment un espace tout à fait différent pour installer le tableau, voire le tableau va être uniquement destiné au musée. Roscoe, ici, qui est un peintre également américain, très impressionnant par la qualité des couleurs et des plages de couleurs et de l'irisation de la couleur au bord de la surface. C'est un peintre, je dirais, du 1-2 ou 1-2-3. Voilà. Alors, la simplification, elle est dans le registre de cette peinture. Mais évidemment, encore une fois, c'est le corps qui est engagé, alors que dans la peinture, entre guillemets, française, c'est le chevalet qui fait la mesure. C'est une grande différence parce qu'il y a la différence entre la vraie grandeur, si vous voulez, et le modèle réduit. Le modèle réduit, c'est la peinture de chevalet. C'est-à-dire que ce qui est petit serait l'image de ce qui pourrait être plus grand. Tandis que là, c'est la grandeur 1 sur 1. C'est l'étendue n'a d'intérêt que dans la mesure où l'échelle est immédiatement celle de l'étendue. C'est pas le projet de quelque chose qui aurait une autre dimension. Elwar Skelly. Alors évidemment, Elwar Skelly encore. Là aussi, autre particularité, le tableau n'a plus forcément la forme du rectangle. Parce qu'il faut varier cette forme. Fontana. Et là va commencer l'idée que cette surface monochrome a deux dimensions. On a envie qu'elle ait trois dimensions. Le premier geste de Fontana, c'est évidemment de la déchirer pour aller voir peut-être ce qu'il y a derrière, d'y ajouter ce geste qui évoque la profondeur. Yves Klein est le champion du monochrome. Ce sont quelquefois des tout petits tableaux, hein, toujours en grandeur 1 sur 1. Et Soto, par exemple, dans lequel le monochrome et le rapport au corps s'installent évidemment. Elio Tissica, un peintre brésilien extrêmement important, dans lequel évidemment la couleur, le monochrome est aussi impraticable, dans lequel le corps s'inscrit. Autre élément de cette couleur, on pourrait dire monochrome, même si ici il s'agit d'une polychromie, c'est de l'installer, comme on vient de le voir, dans un espace. Alors un espace dans lequel le corps s'engage, mais aussi un espace, disons, de la sculpture traditionnelle. Avec Harpe, ici, Kobro, artiste polonaise, vous voyez qu'elle appartient un peu à la sensibilité de Mondrian. Et ici, un artiste américain dont d'un seul coup le nom m'échappe, mais je suis vieux et pas encore tout à fait fatigué, mais c'est un classique. Alors là, l'espace, si vous voulez, est reporté sur le plan du tableau par des jeux de tension entre une couleur et une autre. Voilà. Alors là, je vous ai montré rapidement ces deux séries d'images parce que j'articule mon propos autour d'une différence entre la couleur et les couleurs. Dans la mesure où apparaît au XXe siècle cette image tout à fait nouvelle et tout à fait importante qui est le monochrome. La modernité est inaugurée par Baudelaire, et je vous cite ce beau poème. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, c'est peut-être les miennes. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos. Voilà l'origine de ma déclinaison d'échos. Comme des longs échos qui de loin se confondent vers une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports et l'esprit et les sens. Et je vais peut-être aller... Je résume, si vous voulez, cette ambiguïté entre fragmentation et monochrome ou couleur uniforme, dans la mesure où, évidemment, les deux vont se confondre par moments. Hein. Ce ne sont pas les extrêmes qui restent totalement... autoritaire, mais les deux vont se mélanger. Ici, dans Malevitch, on a à la fois chaque couleur perçue comme presque des monochromes, mais en même temps, quant au rapport entre les artistes eux-mêmes, à droite pour vous sans doute, non à gauche, un tableau de Frank Stella. Et à droite, Kazima Malevitch, on a 60 ans entre les deux. Si vous voulez, les artistes, c'est une longue filiation et ce n'est pas par hasard que les choses se font. Hein. Ils font toujours référence ou c'est toujours une citation de quelque chose qui s'est passé avant. Alors, éco, écologie, économie, ces trois termes serviront de trame à mon témoignage. Évidemment, je les ai choisis parce qu'ils résonnent entre eux, ils se font écho. Écho donc, faire parler un peintre de la couleur, c'est soupçonner qu'il est un utilisateur savant de celle-ci, un habitué de son usage, un fondé historique pour livrer des combinaisons multiples et signifiantes auxquelles on peut la soumettre. Je ne crois pas être capable d'une telle autorité, et c'est pour cela que je limiterai mon propos en posant l'énoncé ainsi, la couleur ou les couleurs. Pour situer cette question, d'abord, allons chez le marchand de couleurs, comme on disait, celui spécialiste des beaux-arts, dont j'avais, il faudrait que je retrouve cette image-là, qui a déjà été montrée. Je prends votre suite. Le marchand de couleurs, comme on disait, celui spécialiste pour beaux-arts. On a le choix dans un nuancier avec au moins une centaine de tons. Lesquels choisir? Ce sont bien sûr ceux qui nous plaisent, qui correspondent à un projet qu'on peut avoir, encore que devant tant d'offres, on puisse modifier le projet. Il faut pondérer ces séductions par d'autres critères. Quelle dispersion? Huile, acrylique, vinylique, aquarelle? Je vous fais grâce d'autres détails qui peuvent être accablants pour le néophyte. Quantité et prix, à l'huile ou à l'eau, surgissent ainsi des questions d'économie et d'écologie. Mais revenons à l'écho. Plusieurs couleurs se font écho, parfois jusqu'au vacarme. Et j'articulerai donc mon propos entre l'opposition entre la fragmentation colorée, c'est la première série d'images que je vous ai montrée, et le monochrome entre la polychromie et la couleur seule. En 1920, Rodchenko peint trois tableaux. Un rouge, un bleu, un jaune, reprenant le concept défini par Malevitch de couleur non signifiante, avec carré noir sur fond blanc. Je crois que c'est la suivante. C'est identique. Qu'elle veuille bien arriver, voilà. Couleur non signifiante. Et ce carré noir sur fond blanc n'est pas le titre de Malevitch, mais une description par lui de l'objet. Le carré, c'est la sensation, le champ blanc, le rien. Les couleurs sont là, au-delà de l'être, du peintre, comme présence, comme étant, au sens presque heideggerien du terme, comme réel suprême, sans rapport avec le réel, un réel référent, mais étant le réel même et fondant presque paradoxalement le concept d'abstraction. La notion d'économie chez Malevitch est souvent nommée la cinquième dimension. Le monochrome est, je crois, la grande invention du XXe siècle en matière de tableaux, de peinture. Cette insignifiance ontologique de la couleur ainsi peinte sera investie avec le temps de significations multiples, voire opposées. Streminski, Yves Klein, Edward Skelly, Richter, Olivier Mossé, pour être dans les gens les plus contemporains, et pour ne citer que des peintres très connus, qui ne sont que quelques figures de monochromistes. Je pense, et en effet, chaque artiste a, une fois dans sa vie, dans sa trajectoire, fait un monochrome. Face à cette nouveauté, et pour simplifier, il reste ou il se continue une peinture de rapport de couleurs à l'intérieur d'un espace donné. Si les monochromes se font écho dans l'espace conceptuel de l'abstraction, la polychromie fait écho dans l'espace rétinien de la sensation. Ces espaces ne sont pas clos par des expériences picturales extrêmes, mais s'influencent entre elles, occasionnant des situations intermédiaires, des ambiguïtés souvent productives. Donc c'est un peu ce qu'on a vu dans la série des monochromes. Malgré tout, il y a des monochromes qui se jouent entre eux dans un espace. Dans les débats ouverts par cette opposition, je retiens alors deux aspects opposés liés pas à la manière dont la couleur, la peinture peuvent être déposées sur le tableau. Soit fragmentation de la surface par des touches ou par un réseau de compositions où les couleurs se font écho dans une vibration créatrice de luminosité du tableau ou de tension interne de la composition. Soit au contraire des champs de couleurs, ce que les Américains appelaient « color fields », où chaque couleur se comporte presque, et pourquoi pas, comme des monochromes juxtaposés. Il est alors question du rapport de grandeur de surface entre elles, le fait qu'un centimètre carré n'est pas la même chose qu'un mètre carré du même bleu. J'avoue, alors je vais un peu vous parler de moi, comme ça. J'avoue me situer alternativement dans l'un et dans l'autre. Je privilégie la texture du dépôt coloré. Je préfère texture à matière, car il ne s'agit pas d'épaisseur de peinture, mais de grains ou d'images de gestes étalant cette couleur. Ainsi, sur le plâtre, il s'agit ici donc d'une espèce d'étagère qui est un volume en plâtre blanc, on le perçoit mal, sur lequel je pose des couleurs qui peuvent très bien changer de place, qui sont soit des échantillons, soit des pièces qui vont aller sur d'autres pièces et qui en soi peuvent très bien être comme ça. Sur le plâtre, donc, je dépose une couleur très liquide et les absorptions différentes du plâtre produisent un effet assez directement pictural qui fragmente la couleur uniforme. Uniforme suppose donc une couleur par forme. Donc c'est dans la manière dont la couleur est déposée sur la toile ou les volumes qui fait sens, à plat monochrome. En effet, c'est plutôt la couleur insignifiante, non symbolique. On a entendu ce matin des exposés qui exposaient évidemment les symboles et les significations de la couleur. À partir de Malevitch, la couleur n'appartient plus tellement à ces significations. Ça se coupe en deux. Alors, qu'en advient-il ? Quel est le rôle de la couleur ? Elle perd sa notion de signification. Elle ne signale pas un danger ou une symbolique quelconque. Elle est en soi, telle qu'elle. Et évidemment, on se trouve devant une autre attitude qui serait celle de la communion. C'est-à-dire, j'adhère, j'ai une sympathie avec ça, je suis ému par rapport par la couleur. Et donc, j'y projette mes propres sentiments. Ou mes propres souvenirs, ou mes propres significations. Donc on voit bien que là, dans une certaine mesure, en tant qu'artiste, à partir de cette construction de l'abstraction, on se met un peu en retrait, et le fait qu'on peigne des surfaces totalement uniformes fait qu'on évacue l'idée de la main qui va peindre. La main n'intervient plus, on serait même plus, et ça m'arrive souvent, à considérer qu'une peinture industrielle, finalement, c'est une qualité nettement plus séduisante qu'une peinture faite à la main par un artiste qui voudrait s'exprimer. On peut mettre le mot exprimer en deux parties. S'exprimer. Alors, un deuxième thème qui est le terme d'écologie. Donc il s'agit des matériaux que j'emploie et en particulier de la disparition de pas mal de pigments ou de liants au nom de normes sécuritaires. Alors effectivement, on se trouve face à une aporie de tout ce matériel qui est maintenant réduit par des normes à un certain nombre de qualité qui ne sont pas forcément favorables. Vous avez évoqué tous les pigments plus ou moins bricolés de la peinture ancienne et plus ou moins extraits de la nature ou même de la, du monde animal. Là, nous, maintenant, on n'a plus du tout accès à cette fabrication, mais on a à notre disposition tout ce qu'on veut. Ou rien que tout ce qu'on veut. On n'a pas plus. Tout ce qu'on nous propose, disons. Les process industriels et l'évolution des normes et l'utilisation de la couleur ont eu raison des fabrications artisanales ou de la possibilité de cuisine ou de trucs de peintre pour fabriquer eux-mêmes leurs peintures. Mais pour prendre l'histoire, ou pour me situer plutôt dans l'histoire, au moins du modernisme, je rappelle ce constat que chaque génération de peintres peut faire. Tout a été fait, la peinture est morte. Je voulais dire, après même tout ce qui a été fait dans les avant-gardes du début du XXe siècle, ça a été la grande question. La peinture est morte, enfin, toutes les expériences, que faire de plus, pourquoi faire une peinture de plus, etc., etc. On s'est tous retrouvés devant cette question. Je pense que toutes les générations, de toute façon, se trouvent confrontées à ça. Et pourtant, curieusement, la peinture continue. Mais dans ma génération, on avait reçu un enseignement, si vous voulez, assez très classique. Et puis, en ce qui concerne la couleur, on avait à la fois les grandes théories des couleurs complémentaires, de tout cet enseignement un peu bébête qu'on nous répétait. Bon, enfin, évidemment, pour mélanger les couleurs, ce n'est pas totalement inutile. Les couleurs chaudes, les couleurs froides, on essayait de prendre la température des couleurs, c'était compliqué. J'ai commencé à enseigner dans des collèges et ça m'amusait au début quand je demandais à acheter aux enfants à acheter des couleurs, je leur faisais toucher pour voir si la couleur était chaude ou froide, etc. En sixième, ils se prêtaient volontiers au jeu. Après, c'était un peu moins drôle. Et puis, quand j'établissais la liste, je disais le rouge, alors il faut du rouge, un rouge plutôt orangé, rouge vermillon, un rouge plutôt moyen, rouge carmin, un rouge plutôt violet, rouge... Lequel, rose tyrien, je dis, oui, le rose tyrien qui avait une puissance assez forte vers le violet. Puis le jaune, alors je mettais l'ogre jaune comme au milieu, et puis de chaque côté, un jaune plutôt verdâtre et un jaune plutôt orangé. Et je disais, après, les bleus, c'est plus la même chose. Les bleus, il en faut beaucoup plus. Il y avait le bleu tomate, il y avait le bleu outre-mer, le bleu locomotive, le bleu... Et je commençais à énoncer tout un tas de noms comme ça. Et bon, évidemment, en sixième, ils marquaient un peu effrayés. Certains s'arrêtaient quand même. Et c'était amusant de donner comme ça toute cette... terminologie, effectivement, des couleurs qui sont effectivement nommées. Donc, devant cette idée de tout a été fait, je me suis dit, dans le fond, si tout a été fait, si on veut continuer à être peintre, il faut aussi fabriquer la peinture, repartir de là et ne plus utiliser la peinture qui est proposée aux artistes parce que cette peinture a déjà tout fait. Voilà. Donc je me suis trouvé devant le problème de fabriquer de la peinture avec une équation extrêmement élémentaire, du pigment, un liant évidemment pour coller le pigment, et puis une charge épaississante parce que il faut donner une espèce de pâte comme ça. Et puis un solvant pour allonger ou pour diluer ou pour dissoudre ou pour nettoyer ses pinceaux. Confronté au dilemme surface de couleur contre fragmentation en nuances, je travaillais de la manière suivante. Je tendais des toiles. Je vais revenir alors à l'image précédente. Voilà. Ça, c'est une peinture des années fin des années 70. Je tendais des toiles dont je peignais des couches successives de peinture de couleurs différentes. Et je décapais une fois sèche chaque couche avec un solvant benzénique, très fort, très mauvais pour la santé aussi. Il restait toujours quelque chose de ces décapages. Ça, c'était l'omniprésence de la peinture à l'huile. Hein, alors que les Américains vont arriver avec le Liquitex, c'est-à-dire la peinture acrylique. Ça va beaucoup nous impressionner dans la mesure où, intellectuellement, conceptuellement, on avait l'idée que la peinture était à l'huile. Le reste, c'était la peinture à l'eau, c'était l'aquarelle, c'était bien plus beau que la peinture à l'huile, enfin, etc. Alors, il restait toujours quelque chose de ces décapages et qui faisait que de chaque décapage restaient des petites touches de peinture, si bien que je faisais finalement de l'impressionnisme sans la main. J'avais des petites fragmentations de couleurs qui... Après, je repeignais certains endroits qui étaient vraiment très abîmés. Par exemple, je pense que le bleu qui est ici en bas a été repeint. Je remodelais un petit peu le... Après, comme je faisais ça sur des toiles séparées, ensuite je recousais les toiles entre elles. On voit, ou bien alors, je, voilà, là il y a une couture là, entre ce bleu et... Donc j'assemblais ces différentes surfaces pour faire une composition au sens le plus traditionnel du terme. Ou bien alors, comme ici, je retendais les toiles sur des châssis de forme pas forcément rectangulaire, puis j'assemblais ces châssis avec du plâtre. En fait, les tableaux rendaient compte du travail qui les avait produites, et c'est l'époque où le mot travail et production commençaient à être systématiquement utilisés par les artistes dans leurs commentaires. Le contexte politique et certaines dérives structuralistes en autorisaient l'usage intensif. Les effets de ce travail, de la couleur elle-même, proche du pigment, mat, et donc très absorbant très fortement la lumière, conduisent à regarder plus comme une surface irradiante, une texture, que comme la coloration d'un message que le peintre aurait à dire. L'aspect sensible conduisant donc à considérer la couleur en elle-même, invitant plus à la communion qu'à la communication, dont les stéréotypes colorés ne m'intéressent pas, même s'ils peuvent agir pour le regardeur. Au début des années 80, on trouvait encore des pigments en poudre. Je me servais à la Compagnie française des pigments, qui pouvait d'ailleurs préparer les colorations de n'importe quelle nuance, en particulier pour la teinture des étoffes ou les tapisseries à restaurer. Même constat pour les encres d'imprimerie, je fais beaucoup d'imprimerie, qui sont réduites maintenant aux quatre couleurs presque de la quadrichromie. Les liants naturels ont presque disparu, huile cuite, vernis, gomme laque ou arabique, tout ça est sur la marge, si vous voulez, des matières utilisées. Il existait des livres de recettes pour les fabrications de peintures et vernis. Ils sont maintenant illisibles, inutiles, mais témoignent de cette chimie expérimentale, souvent issue du monde animal ou végétal, peu des dérivés de la houille ou du pétrole. Leur lecture est plus poétique qu'instructive. On savait plus que moi, la colle de poisson, le fiel de bœuf, les racines de guimauve bien blanches, le borax, l'essence de citron ou de lavande, la gomme gutte, l'amidon, les graines d'Avignon concassées, le bitume de Judée. L'essence de térébenthine est devenue un produit irritant et même les résines glycérophtaliques sont maintenant interdites. Quant aux solvants benzéniques, ils sont marqués d'une tête de mort, à juste titre d'ailleurs, ainsi que les pigments contenant du plomb. De toute façon, les machines à nuances ont remplacé le métier du peintre, du vrai, comme disait Picasso, en faisant une espèce de nuance. C'est vers l'industrie que se découvrent les peintures innovantes, mais cela dépasse l'usage de la main, le cadre de l'atelier du peintre. Curieusement, nous nous retrouvons dans la prédiction de Tarabokine, en 1918, qui dans ses écrits du chevalet à la machine, ou le dernier tableau, vous voyez que ce n'est pas d'hier que date la fin du tableau, positionne l'artiste comme l'auxiliaire et même le metteur au point du prototype destiné à l'industrie. Le peintre, dépossédé de ses savoirs traditionnels et pygmalion de l'homme nouveau, quitte le chevalet de l'atelier pour trouver son inspiration et ses moyens dans les projets industriels. Ce ne sera pas sans influence dans l'art conceptuel. Revenons dans l'atelier, j'y emploie encore de la gomme laque diluée dans l'alcool, ce qui donne un très bon rendement de pigment, et par superposition de couches légères, la couleur définitive apparaît après séchage. Il faut bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure avec le précédent exposé, que la couche finale, ce qu'on voit, est rarement une couleur telle qu'elle. mais c'est souvent une superposition de couleurs qui tient compte à la fois des cuisines ou de l'hésitation ou du repentir. Tout ça se mêle, mais fait couche, disons. Donc c'est un des gestes importants, finalement, du peintre de se poser le problème de la couche de peinture, l'ultime aspect de la couleur, sachant que le premier geste sera recouvert. Je dis bien couleur définitive, car la couleur humide dans le pot et la couleur sèche ont une grande différence pour, en ce qui me concerne. Vous avez une anecdote célèbre sur la présentation de nuanciers, je crois, en Afrique.
Oui, non, c'est le témoignage d'ethnolinguistes qui vont sur le terrain en Afrique centrale et qui, avec des nuanciers occidentaux, demandent aux populations autochtones de nommer la zone des bleus, des rouges, des verts, et s'aperçoivent que les paramètres occidentaux de la couleur n'ont pas cours, et que ce qui est important, c'est de savoir si la couleur est sèche ou si elle est humide, si elle est dure ou si elle est tendre, et ainsi de suite. Donc, ici encore, nos vérités occidentales de la couleur ne sont pas partagées par la planète entière. Et donc, il y a énormément de sociétés, y compris les sociétés anciennes en Europe, où le paramètre sec humide est extrêmement important et fait que la couleur est la couleur.
Oui, sans être dans le même schéma, j'ai la même expérience dans la mesure où, comme je fabrique les couleurs, elles sont souvent chargées avec de la craie ou de la poudre de marbre, etc. Et lorsqu'elles sont humides, elles ont une intensité qui baisse totalement lorsqu'elles sont sèches. Ce qui me rapproche évidemment du plâtre, ce qui ne me gêne pas a priori, au contraire, parce que plus elles sont proches du blanc, finalement, plus elles sont proches de la lumière, plus l'intensité colorée, tout en étant assez pâle, pas trop saturée, finalement, comme la lumière est très absorbée par le mat, elle rend l'intensité de la couleur sans qu'elle soit pour autant saturée, quoi. Saturé allant vers le foncé plutôt.
Oui, c'est un très beau dossier, les rapports entre le foncé et le saturé. On parlait à propos de la gravure ce matin. Dans la gravure à l'encre noire sur papier blanc, on fait du foncé en saturant, en densifiant. Et au lieu d'avoir trois paramètres, on n'en a plus que deux, dans le noir et blanc.
Donc la couleur n'est pas pour moi signifiante ou symbolique, ni même expressive. Elle est l'article d'appel, je pourrais dire. C'est-à-dire la chose qui fait que, tiens, cette couleur me plaît. Mais je pourrais dire aussi l'actrice de mes hésitations, puisque je les superpose, je ne sais pas très bien où je vais pour arriver à la couleur finale. À la recherche d'une émotion presque musicale, telle que la musique est définie par le philosophe Yankelevitch comme une précision évasive. La couleur se dit elle-même sans modèle à atteindre. Enfin, pour terminer l'économie, less is more, cette formule si souvent énoncée par Misandero, il n'en est pas l'auteur, est devenue la devise du minimalisme. Elle illustre bien cependant à la fois l'économie de moyens à mettre en jeu et, dans le refus de l'artifice, le respect des matériaux. Si cette idéologie est maintenant battue en brèche par le kitsch ou autre aventure actuelle, car je parle de, entre guillemets, de ma génération, hein, qui fait suite à l'idéologie des avant-gardes, la rencontre de la peinture américaine et de l'échelle 1 sur 1 de l'étendue de peinture. Et il est bien entendu que les jeunes artistes actuels se foutent royalement de pratiquement tout ça. Vous parliez d'acculturation, mais heureusement qu'ils n'ont pas cette coquille lourde de tous ces savoirs et qu'ils vont naïvement et même poétiquement et même stratégiquement vers des aventures, soit qu'ils ont déjà été faites, mais ils les font différentes, soit des aventures totalement déconnectées de cette histoire. Je dirais pas totalement déconnectées, parce qu'il en reste toujours un petit peu, mais comme on est de toute façon mal compris, étant comprise de travers, elle n'est pas exactement notre propos. Donc, less is more, le peu peut faire beaucoup. On peut faire de l'art avec des bouts de ficelle, et la plus-value en sera que meilleure, disons. Et en peinture, c'est une chose que je disais souvent aux étudiants, le plus difficile, c'est pas d'en mettre, mais d'en enlever. Et c'est là un peu difficile d'être simple. Ma génération a été celle du degré zéro, qui n'est pas à rechercher dans l'histoire, mais dans le quel est l'élément le plus simple ou le plus premier dans la Constitution. Un critique comme Greenberg avait défini la peinture comme ceci. La première peinture, c'est la toile blanche qu'on achète chez le marchand de couleurs. Alors tout le monde, évidemment, est parti de cette maxime absolument implacable. Pour justifier, bien entendu, le monochrome ou la réduction la plus grande de l'acte de peindre comme étant la chose la plus importante, parce qu'elle est la plus élémentaire, la plus contenue dans tout le reste. Mais heureusement, il avait eu cette phrase formidable qui fait suite à cette déclaration qui était « c'est pas pour autant que c'est une bonne peinture ». Alors, dans cette question de redéfinition des territoires spécifiques des artistes, des arts, du questionnement « qu'est-ce que la peinture ?», il fallait donc repartir des données plus ou moins objectives, d'écarter la main de l'expérimentation pour ne pas troubler par des savoirs acquis, et Dieu sait si notre formation était classique, ou un pathos personnel, ce qui pouvait rendre évident la nature élémentaire de la peinture. En ce qui me concerne, et plus particulièrement, c'est la couleur qui fut et est restée mon champ d'expérience plus ou moins réussi. Les pigments sont parfois rebelles à leur dispersion dans le liant parce qu'ils sont trop pulvérulents, ils sont parfois instables, difficiles à fixer sur le support, si bien qu'en dernier ressort, je peux dire que je me limite à ces pigments qui sont raisonnables, c'est-à-dire qui peuvent bien se plier à ma cuisine personnelle. Pour conclure et finalement ce propos sur la couleur, et là je rejoindrai sans doute beaucoup de monde, la couleur c'est celle que j'aime, celle qui ne coûte pas trop cher, celle que j'ai au bout de mon bras et qui est sur la table pour aller sur le tableau. La définition minimale du peintre étant de mettre une couleur à côté d'une autre, c'est la manière dont il la peint et pas forcément l'histoire qu'il peint qui est son expression. Je vais vous passer très rapidement des images de... qui complète celle-là. Il faut revenir. Et qui sont... Alors voilà, je vais commencer comme ça. Voilà des tableaux des années 70. Donc là, c'est de la... je vais recouser les... C'est un côté un peu fresque, abîmé, parce que justement, ce décapage produisait des effets qu'on retrouve dans la fresque. Il y a même des pochoirs de personnages. Voilà, des toiles cousues. Donc, vous voyez que c'était dans une espèce d'impressionnisme, tout en étant dans la question de la surface. Ou là, deux tableaux qui sont réunis par du plâtre coloré. Alors, cet assemblage de châssis, je l'ai fait dans des grandes décorations. Ici, il s'agit de l'hôtel de région de Montpellier, de la région de Montpellier, où il s'agit de châssis assemblés qui sont réunis. Voilà d'autres figures. Alors là, la manière de poser la peinture dans ces monochromes consiste à, je dirais, à faire la touche... peu expressive d'un peintre qui a peint le verrou. Fragonard, oui, j'appelle ça la touche Fragonard. C'est tout ce qui... Alors, toujours l'histoire d'étagère aussi, dans la mesure où, si on considère que la couleur n'est pas signifiante, que le jeu c'est un rapport de couleurs, une couleur à côté d'une autre, ça marche à tous les coups, je dirais. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, vous la mettez l'une à côté de l'autre. Question de proportion, question d'assemblage, plus ou moins heureux, plus ou moins... Avec, évidemment, des questions un petit peu plus mystérieuses, mais le premier, ce que j'appelle l'article d'appel, c'est la qualité de la couleur, la sympathie qu'on peut avoir pour la couleur. Et puis l'idée de poser le tableau sur l'étagère est une autre façon de plutôt que de suspendre un fil. Et c'est ça. Alors on verra dans le symbole et aller vers la question de l'objet et du réel. L'idée de que je poursuis le réel, je ne poursuis pas l'illusion, ce qui est, qui est très lié à la peinture, l'illusion. Alors que dans la sculpture, Platon définissait la sculpture comme le vrai art, c'est là où les choses sont réelles, alors que la peinture était illusoire. Voilà une photo d'exposition dans laquelle il y a plusieurs aspects de... Alors j'utilise quelquefois de la peinture industrielle, c'est de la tôle peinte avec des volumes qui sont faits en tôle, et la tôle est peinte avec ces peintures polyester qui sont cuites et qui sont absolument magnifiques, enfin des peintures de caterpillar par exemple, ou même la peinture de voiture, enfin c'est... Alors donc j'y mets une touche sensible dessus. Voilà l'étagère à peinture, c'est une étagère qui supporte un geste de dépôt de peinture. Ou ce sont des bronzes dans lesquels il y a une tension, voilà des volumes monochromes, qui font évidemment toujours référence au tableau, mais le tableau est devenu un volume comme si c'était gonflé. Sur l'observation suivante, quand un peintre regarde un tableau, on le voit tout de suite aller vers la tranche, comme s'il avait trouvé le secret de l'affaire. Et puis, d'un autre côté, il y a une observation aussi que m'avait fait récemment, enfin, à l'époque où j'enseignais, une étudiante à qui je demandais pourquoi tu ne fais pas de peinture. Elle me dit parce que ça ne bouge pas. Et effectivement, vous mettez une peinture et puis vous mettez la télé à côté, tout le monde va regarder la télé parce que ça bouge. Donc je me suis dit, la question, la peinture ça bouge pas, mais est-ce que le spectateur peut bouger? Donc en faisant du volume, on arrivait à renouveler le regard sur la peinture dans la mesure où on inversait le propos, la peinture ne bouge pas mais le spectateur bouge parce qu'il a la possibilité de faire des angles de vision différents. Alors des objets que j'appelle bichromes aussi, ce sont des volumes qui s'emboîtent l'un sur l'autre. Voilà un volume qui en même temps réfléchit une lumière parce que derrière c'est peint en rouge et la lumière réfléchie, on voit vaguement le mur se colorer en rouge. Ça c'est des volumes, je fais souvent référence à justement l'homme nouveau, c'est-à-dire cette souvenir de cette période moderniste dont évidemment je crois que je pense que la modernité n'est pas totalement enterrée, bien que on la critique beaucoup. Voilà, des bichromes. Alors là, il s'agit d'évoquer la différence entre une couleur brillante, ce sont deux volumes qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et la couleur à l'huile, couleur à l'eau. En bas, c'est un peu d'aquarelle. Il s'agit de plâtres hein, qui sont plus ou moins colorés. Donc toujours cette idée d'un volume sur un autre, un accord de deux couleurs. Est-ce que c'est... Ou il y a des brillants ou des mats, c'est peu lisible. Trois couleurs, dans le fond. Ce sont on pose les choses les unes sur les autres. On peut changer à la place du jaune, si ça, on peut mettre du rouge. La décision du peintre compte, mais évidemment, l'utilisateur pourrait y mettre autre chose. Trois couleurs, voilà. L'idée de matérialiser, c'était d'éviter l'illusion et la symbolique. Aller vers le réel. Les choses sont les choses. Donc aller vers l'objet qui est à trois dimensions, qui est comme cet objet sur lequel on se cogne. Ça, c'est des choses qu'on appelle des glissades, dans lesquelles deux formes peuvent glisser l'une sur l'autre. Je suis un collectionneur de râpes aussi, donc l'étagère peut accueillir l'objet. Encore une fois, c'est la référence à l'objet, éviter d'aller vers le symbolique, d'aller vers le signifiant, vers la communication. Les choses sont là, comme un objet. La couleur aussi. Là, on revoit la trilogie moderniste. Alors, là, il s'agit de la quatrième couleur. vous mettez une couleur à côté d'une autre, ça marche à tous les coups, quelle que soit la couleur, sauf celles qui sont, qu'on n'aime pas, quoi. La troisième, ça commence à jouer avec les deux précédentes. Quant à la quatrième, laquelle choisir, ça marche assez souvent. Et alors on dirait la cinquième, la sixième. Alors à ce moment-là, on arrive dans n'importe quoi. Et si effectivement c'est pas articulé autour d'une signification, la polychromie, c'est n'importe quoi, quoi. Évidemment, l'idée, c'est de conserver à chaque couleur la puissance monochromique. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas modulée de telle manière qu'elle est, par sa fonction d'aplat, de matité et d'intensité, elle garde le jaune, c'est le jaune, le rose, c'est le rose, le vert, c'est le vert. Voilà. Donc, ces pièces, il y a la quatrième couleur, c'est l'espèce de volume qui est au-dessus, je peux les changer. Voilà trois couleurs, voilà trois couleurs aussi, une petite étagère, trois couleurs, plusieurs couleurs. Voilà. Je les mets, vous voyez, l'étagère sert à ça, mettre les couleurs les unes sur les autres. Voilà un mur d'atelier, par exemple. Je fais la même chose pour le dessin, par exemple, que je coule en fonte d'aluminium, de façon à ne pas faire référence au dessin avec tout le côté illusionniste, projet du dessin. Du coup, le dessin transformé en fonte, c'est l'objet lui-même. Alors souvent, j'intègre le mur aussi comme élément, comme faisant partie du tableau. Voilà, des choses en Bretagne, voilà, des expositions. Voilà. Puis, quelquefois, je mets même par terre, parce que, finalement, le sol est un mur comme un autre, faisant référence à « les hommes sont des femmes comme les autres ». Ou souvent, je pose les volumes les tableaux sur les volumes. L'objet est à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, c'est une exposition faite en Chine, dans laquelle... Ça, c'est des... Alors, quelquefois, je fais des tableaux quand même. Je n'y résiste pas. Et tout s'associe, si vous voulez. À partir du moment où les choses n'ont pas de signification, entre guillemets, je le répète encore, ça marche à tous les coups. Il suffit de placer les choses. Quant à l'aquarelle, tout le monde sait que sa principale qualité, c'est que ça déborde, ça communique. C'est le seul moment où j'utiliserai le mot communication. C'est que les couleurs communiquent entre elles à cause de l'eau. Je fais beaucoup d'imprimerie, là, voilà des lithographies. Et voilà une vague photo de l'atelier.
Merci Michel de ces témoignages.
Je vais rajouter aussi que dans ma référence à la couleur, je dois une grande part à Michel Pastoureau, parce que dans le fond, ça me paraît être cette histoire de la couleur qui fait sens. Comment est-ce qu'elle a changé de sens? Comment est-ce qu'elle est... Toute cette histoire me paraît tellement plus juste que les théories de Chevreuil. C'est-à-dire que des combinaisons plus ou moins scientistes de la
couleur. Oui, enfin, ce sont aussi des documents d'histoire.
Oui. Oui, mais ils nous ont particulièrement accablés, souvent.
Quand on étudie les impressionnistes, on se pose la question, qui a lu Chevreuil, qui ne l'a pas lu, qui a lu l'abrégé qu'on a donné blanc, qui était beaucoup plus facile d'accès que Chevreuil lui-même. Mais en vous écoutant, je pensais à une enquête que je fais depuis un certain temps. J'essaye à la fois de définir la notion d'incolore et de retracer son histoire. Et je me souviens que certains dictionnaires expliquant les mots en français ou dans d'autres langues, pour définir l'incolore, ne disent jamais qui est sans couleur, mais qui est peu coloré ou qui est monochrome, comme si monochrome et incolore étaient synonymes, et comme si le phénomène couleur commençait à deux. et la polychromie à 3. Ce sont des pistes intéressantes, parce que l'incolore, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être le transparent, ça peut être la couleur du support, ça peut être le gris, ça peut être le blanc à certaines époques. Et aujourd'hui, le monochrome a à voir avec l'incolore assez fortement.
Oui, sauf qu'il y a depuis Rodchenko, la figure existe.
Oui,
l'image du monochrome, de la couleur.
L'absence de figure, c'est une figure. Donc, on est toujours prisonnier. À qui la parole? D'autres témoignages?
Michel, vous pouvez rester là pour répondre?
Oui, il faut répondre.
Ah, il faut répondre.
Vous avez parlé le temps, mais maintenant, vous devez répondre aux questions. La punition, c'est de répondre aux questions. Ne pas parler de Soulage.
Oui. Un monochrome animé.
Pourquoi animé?
Bien parce que lui-même dit que les rayures, la manière dont il peint, voilà, on la retrouve, cette question qui fait l'originalité du peintre, introduit la notion de lumière de manière paradoxale. Alors, c'est dans les paradoxes, évidemment, que se situent les jouissances, sans doute, les plus extrêmes. Moi, Soulage, j'ai toujours pensé que c'était un constructeur de cloisons. Il fait des murs. Non, mais...
Il y a de belles cloisons.
Ben oui. C'est-à-dire que c'est un des peintres français qui a compris la notion d'échelle 1 sur 1. Et il est arrivé à un moment, dans les années 90, il a fait une grande exposition au Musée moderne de la ville de Paris, où ces tableaux étaient présentés vraiment comme des cloisons. On était dans des chicanes, comme ça, et à chaque fois, on avait un énorme tableau. Et récemment, dans le musée de Montpellier, où il y a une salle consacrée à... il a voulu présenter ces tableaux suspendus, comme ça, au milieu de la salle. Et quand on va derrière, malheureusement, il est tendu une espèce de drap de lit pour ne pas voir le châssis, ce qui était quand même un peu une erreur. Soit on montre le derrière parce que on a, avec la même valeur que le devant, mais on ne cache rien. Si vous voulez. Donc il devrait faire un recto verso, comme il avait fait d'ailleurs dans cette exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et c'est aussi la notion de cloison dans la mesure où c'est quelqu'un qui intègre finalement dans ses dimensions de l'individu, du corps, dans la peinture.
Qui souhaite intervenir?
S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on fasse la pause maintenant, qu'on reprenne à 16h30. Oui, et voilà, et nos deux amis vont intervenir après. Hein, voilà. Merci à tous. À tout à l'heure, 16h30. Merci. 11 minutes de pause.